De fait, en mai dernier, nos députés étaient, dans ce cadre-là, amenés à examiner en première lecture le projet de loi sur l'euthanasie, donc officiellement appelé aide à mourir. Et à cette occasion, le rapporteur de la loi, qui s'appelle le député Olivier Falorni, a déclaré, je vous le cite, « Le mot euthanasie a été souillé par l'histoire et nous n'en voulons pas ». Il faisait alors référence aux nazis qui ont massivement pratiqué l'euthanasie dans leur politique de purification de la race aryenne. Il a de cette manière mis en lumière l'évidente ambiguïté du débat sur l'euthanasie aujourd'hui. Parce que d'un côté, vous voyez, les partisans de l'euthanasie revendiquent sa légalisation vraiment à grands cris, mais de l'autre côté, on se rend compte que, eh bien, malgré ces 12 euphémismes qui consistent à donner un nom un peu plus doux à cette pratique, eh bien, l'euthanasie est bien un acte intrinsèquement mauvais. Monsieur Falorni, qui est, je le rappelle, un cadre du Parti socialiste, a peut-être en effet oublié que le mot nazi est une forme contractée du mot national-socialisme, car il n'a pas estimé que les nazis avaient souillé le socialisme dont ils se revendiquent. Mais s'il a le sentiment que le Reich a souillé ce terme, sans songer qu'il ait pu souiller également d'autres termes politiques, c'est peut-être parce que cette idée même de souillure, elle n'est pas propre à ce qu'ont fait les nazis, mais elle est intimement liée à la réalité de l'euthanasie. Alors, qu'en est-il ? Pour bien démarrer ce sujet délicat, il nous faut bien définir ce qu'est l'euthanasie. Alors, une petite étymologie du mot nous apprend que les Grecs, pour les Grecs en tout cas, ce mot signifiait « bonne mort », euthanasie. Et les Grecs l'employaient pour désigner les morts douces, sans douleur, avec donc, c'est-à-dire sans agenda politique. Le serment d'Hippocrate, en effet, qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, invitait les médecins à ne pas provoquer la mort. Hein, les médecins juraient alors « Je ne donnerai à personne, même si on me le demande, un médicament mortel, ni ne suggérerai un tel conseil. » La situation est bien évidemment différente aujourd'hui, car l'euthanasie s'est identifiée à la revendication d'un droit à donner la mort dans certaines circonstances. Et dans cette perspective, l'euthanasie consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne afin de supprimer une souffrance présente, suspectée ou à venir. Et de fait, dans Evangelium Vitae, dont on a abondamment parlé pendant cette session, Jean-Paul II rappelle que l'euthanasie se situe au niveau des intentions et à celui des procédés employés. Donc vous voyez, dans l'euthanasie, il y a deux éléments qui contribuent à la définition. D'une part, l'intention de donner la mort. L'intention est un élément important de la définition de l'euthanasie. Et l'acte matériel par lequel on l'administre. Elle peut se faire soit de manière active, donc en administrant un produit létal, ou par omission, en cessant de donner un médicament qui est nécessaire à la survie du patient. Même si, on le verra un tout petit peu après, il y a des circonstances dans lesquelles il est évidemment légitime de cesser certains traitements. Et la distinction entre euthanasie active et par omission, elle est importante parce que notre législation, en tout cas française, elle feint de l'ignorer, mais elle l'exploite pour de fait pratiquer l'euthanasie. Et ça aussi, nous y reviendrons. Les partisans donc de l'euthanasie, comme nous l'a bien mis en lumière M. Falorni, sentent, plus qu'ils ne savent en réalité, la perversité de cet acte. Et c'est la raison pour laquelle ils lui préfèrent d'autres termes qui évoquent un peu moins cette idée de meurtre. On parle ainsi généralement de mort dans la dignité. Et de fait, et Sir Gaëtan nous l'avait bien rappelé, bien présenté, la défense de l'euthanasie, elle se fonde sur l'idée de préserver la dignité des malades. Alors, on a déjà bien médité sur ce qu'était la dignité de l'homme, et on peut rappeler un peu brièvement que c'est le christianisme qui a contribué véritablement à façonner le concept de dignité. Et cette dignité, elle se rapporte à la valeur propre de l'individu humain, parce qu'il participe à une nature rationnelle, raisonnable, et qu'il rend capable de choisir le bien, ou le mal d'ailleurs, en toute conscience. Et donc, une personne, elle est toujours inconditionnellement digne. Seuls les actes qu'elle pose peuvent être éventuellement perçus comme indignes de l'humanité. Et donc, la conséquence nécessaire et logique qui s'impose, c'est qu'une personne qui souffre est toujours digne. Par contre, une personne qui pose un acte à l'encontre de sa dignité pose un acte indigne de son humanité. Et on peut résumer un peu la situation en donnant deux caractéristiques de la dignité. Elle est d'une part inviolable, on ne peut pas la retirer, on ne peut pas la perdre, et elle est indisponible, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec elle. Et ça, c'est une notion que le droit français reconnaît, l'indisponibilité du corps humain. L'histoire, en fait, regorge d'exemples qui nous montrent que le désir d'administrer la mort, elle est toujours une menace contre la dignité de l'homme. Alors j'ai trouvé quelques exemples qui illustrent un peu ce propos. Et voyez par exemple les peuples du Nord-Canada, ils laissaient tomber accidentellement leurs personnes âgées dans la neige lors de balades en traîneau, et après ils les laissaient mourir de froid dans la neige. Ou alors par exemple, enfin, c'est des pratiques très barbares, mais certains peuples d'Afrique du Sud, lorsque leurs personnes âgées n'étaient plus capables de travailler, donc elle n'était plus rentable, entre guillemets, eh bien, il les laissait s'allonger auprès de fourmilières géantes. Et je vous laisse imaginer la suite. Alors, plus proche de nous, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a sept pays qui ont légalisé l'euthanasie dans le monde. Alors, je les cite un peu rapidement. Il y a le Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. C'est uniquement l'euthanasie. Il y a certains pays qui ont légalisé le suicide assisté, qui est un tout petit peu différent, même s'il y a des problématiques qui se recoupent. Et dans ces pays-là, on voit d'inquiétantes dérives se développer. Et c'est ainsi que le comité, des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui n'est pourtant pas bien connu pour son conservatisme dans les sujets sociétaux, a publié le 26 mars dernier un rapport alarmant dénonçant la façon dont le Canada propose, voire facilite, l'euthanasie des personnes handicapés ou pauvres, faute d'alternatives sociales ou médicales suffisantes. Et d'ailleurs, c'est le même comité qui a émis un rapport, alors je ne sais plus la date, mais c'était il y a quelques semaines, quelques mois, sur le projet de loi qui est actuellement en discussion au Parlement. Alors, qu'en est-il? L'euthanasie est-elle vraiment un moyen de préserver la dignité du souffrant? Autrement dit, l'euthanasie est-elle bonne en soi? Et pour répondre à cette question difficile, nous verrons tout d'abord quelle est l'attitude générale de la société à l'égard de l'euthanasie, avec un regard spécifique sur l'encadrement juridique de la fin de vie. Ensuite, nous verrons les postulats philosophiques qui sont sous-jacents à cette attitude. Et puis, on finira par un regard chrétien sur la fin de vie, pour finir avec des notes d'espérance. Alors, tout d'abord, dans notre première partie, un état des lieux. Alors, officiellement, vous savez, l'euthanasie est interdite en France ainsi que dans la plupart des pays occidentaux. Mais il est clair, et on le sait tous, on le sent tous, on le vit tous, il y a une forte pression pour sa légalisation. Mais la tentation de l'euthanasie, elle n'est pas qu'une question de légalisation. Elle consiste avant tout dans un certain rapport avec la fin de vie. Hein. Et puisque l'euthanasie est officiellement interdite, nous attacherons à voir quel visage revêt cette tentation de l'euthanasie et comment elle est appréhendée par la législation. Alors j'ai fait une petite erreur dans le titre, c'est pas mentalité eugénique, c'est mentalité euthanasique. Voilà, la mentalité euthanasique, elle se manifeste sous plusieurs rapports. Et Saint Jean-Paul II, il parle notamment dans Evangelium Vitae des structures de péché qui sont propres à la culture de mort. Il cite par exemple l'industrie pharmaceutique qui produit en masse des substances abortives et contraceptives aussi, peut-être un tout petit peu moins largement des substances euthanasiques. Saint Jean-Paul II souligne aussi le rôle que les médias ont dans le façonnement des idées et qui sont contraires au respect de la vie. On présente souvent dans les médias des pratiques mortifères telles que l'euthanasie, l'avortement et ce genre de choses, sous le signe du progrès et de la liberté. Et comme les médias ont une importance prépondérante dans la vie quotidienne, eh bien, de fait, les idées qu'ils véhiculent passent dans l'opinion publique. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le débat juridique, politique de l'euthanasie reprend les codes de la communication, puisque c'est une dialectique avant tout de l'émotion qui consiste à émouvoir l'interlocuteur pour le gagner à ses idées et parallèlement stigmatiser celui qui pense différemment. Voilà, donc à présent, nous allons voir un petit peu plus le cadre légal en France. Alors comme je l'ai dit, L'euthanasie, elle n'existe pas juridiquement, officiellement en France. L'euthanasie, dont qu'on a définie comme l'intention de donner intentionnellement la mort, elle consiste donc à mettre fin à la vie d'une personne, et donc à ce titre, elle dépend en principe des dispositions du code pénal qui interdisent l'homicide. Mais vous allez voir, on va tempérer cette affirmation dans un instant. En plus, voilà, du code pénal, il y a un certain nombre de lois qui encadrent la fin de vie. Sur la fin de vie, il y a deux lois qui sont particulièrement importantes, que vous connaissez peut-être. Tout d'abord, la loi Leonetti du 22 avril 2005 et la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Alors, je les évoque parce que elles manifestent des rapports importants de notre mentalité vis-à-vis de l'euthanasie. Donc, c'est pas même pour nos chers Allemands, il y a beaucoup d'intérêt à écouter ce qui suit. Alors, la loi Leonetti, tout d'abord de 2005, avait eu le double objet de, d'une part, développer les soins palliatifs, ce qui est très bien, et d'exclure l'obstination déraisonnable, ce qui est aussi une bonne chose. L'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique, ce sont tous les deux la même chose. La médecine moderne a fait de grands progrès, c'est très bien, et a parfois permis de maintenir en vie des personnes qui autrement auraient été promises à une mort certaine. Et donc, c'est un grand progrès, il faut apprendre à le maîtriser. Dans certaines situations, par contre, le patient n'a aucune perspective de guérison ni même d'amélioration. Et dans cette situation, les traitements, ils peuvent apparaître comme inutiles, voire disproportionnés, et peuvent même occasionner des souffrances. Et donc, le refus de l'acharnement thérapeutique, il a simplement pour objet de refuser l'administration de traitements lorsque ceux-ci sont non seulement inefficaces, mais qu'ils sont même de nature à gêner ou à faire souffrir le patient. Par exemple, une intubation qui n'est jamais très agréable, ou alors l'effet secondaire de certains traitements. Et donc, lorsqu'on met fin à ces traitements, en fait, le but recherché n'est pas d'accélérer la mort, mais c'est le soin du patient, le soulagement de ses douleurs. Donc, les deux objectifs de la loi Leonetti, qui étaient le développement des soins palliatifs et le refus de l'acharnement thérapeutique, étaient honorables. Mais en fait, il leur manquait deux précisions. D'une part, il n'y a pas la distinction entre le refus de l'acharnement thérapeutique, qui est bien, et l'euthanasie par omission, dont on a parlé en introduction. Parce que lorsque on décide de mettre fin à des traitements, on le fait parce que le rapport entre ce qu'on peut raisonnablement attendre du traitement et son effet concret est négatif. Il peut y avoir plus d'incommodité, voire de souffrance à administrer des traitements à certaines personnes, tandis que les perspectives de guérison sont nulles. Mais parfois, ce rapport est incertain. Vous voyez, il peut y avoir de réelles chances, des réelles perspectives de guérison. Et vous voyez donc que la frontière entre l'euthanasie par omission et l'acharnement thérapeutique peut être un peu poreuse. D'autre part, la loi Leonetti ne définissait pas la notion de traitement qui était donc qui était essentielle dans cette loi, puisqu'il s'agissait de mettre fin au traitement, mais sauf qu'on ne les définissait pas. Et donc, il y a des dérives qui sont susceptibles d'arriver, et elles arriveront de fait avec la loi Claeys-Leonetti de 2016. Depuis cette loi, l'alimentation et l'hydratation sont considérées comme des traitements. Alors comme ça, si on entend cette phrase-là, ça peut nous sembler un peu banal, mais en fait c'est excessivement lourd de conséquences. Parce que normalement, le traitement, il comprend l'ensemble des méthodes qui sont employées pour lutter contre une maladie et pour tenter de la guérir. Mais parfois, comme on l'a rappelé, le traitement peut apparaître disproportionné, voire inutile. Dans ce cas-là, rien ne fait obstacle à son arrêt. Sauf que le traitement, il ne concentre pas la totalité de l'acte médical, qui est aussi fait de relations, de soins et de tout un tas de choses. Et donc, si les traitements peuvent être arrêtés dans des circonstances bien définies, les soins qui sont prodigués, ils sont quant à eux toujours dus. Hein, on ne cesse pas, par exemple, de faire la toilette à un patient sous prétexte que, il est en fin de vie, en phase terminale. Voyez? Et de même, on n'arrête pas de l'alimenter ou de l'hydrater parce qu'il va bientôt mourir. Oui. Et donc, puisque la loi Leonetti avait omis de définir ce qu'est un traitement, la loi Claeys-Leonetti, la deuxième, on a profité pour estimer que l'alimentation et l'hydratation étaient des traitements. Et donc, la conséquence, on peut arrêter d'hydrater et d'alimenter un patient. C'est de l'euthanasie à peine déguisée. Et pour cacher cette mort cruelle, la loi Claeys-Leonetti a également autorisé la sédation profonde jusqu'au décès. Donc un semblant de compassion pour les pauvres personnes en fin de vie. Et donc on administre à ces patients des substances qui le font entrer dans un coma profond de manière à ce qu'il ne ressente plus la souffrance, puis on le laisse mourir de faim et de soif. C'est ce qui s'était passé avec l'affaire Vincent Lambert, mais l'affaire Vincent Lambert est loin d'être isolée. Il y a beaucoup de cas très similaires. La seule différence, c'est que le cas Vincent Lambert a été très médiatisé parce que dans sa famille, il y avait deux personnes qui avaient des visions diamétralement opposées de la fin de vie. La maman de Vincent Lambert qui voulait protéger sa vie et sa femme qui voulait mettre fin à sa vie. Pour finir sur le cadre juridique, j'évoque simplement le projet de loi sur l'euthanasie qui occupe maintenant depuis plusieurs mois nos parlementaires et qui est toujours en discussion. Vous savez que l'Assemblée nationale l'a adopté, le texte, le 27 mai dernier. Et le Sénat devait l'examiner en octobre, mais il a repoussé son examen sine die. Et là, récemment, cette semaine, mardi, l'Assemblée nationale a annoncé qu'elle allait revoir en deuxième lecture, en février, le texte. Le texte est en réalité deux textes différents, l'un sur les soins palliatifs, dont on va parler un peu plus tard, et l'autre sur l'euthanasie en propre. Et donc ces menaces contre la vie, elles ne sont pas des pures matérialités. Il ne s'agit pas simplement de faits, mais elles ont des motivations et des conséquences philosophiques. Ce sont elles qui façonnent directement la mentalité euthanasique que nous venons de voir. Alors on va passer à notre deuxième partie. La mentalité, les postulats philosophiques sous-jacents à la mentalité euthanasique. On pourrait consacrer de longs développements à l'ensemble des courants idéologiques qui traversent notre société. Sœur Charlotte nous en a déjà parlé vendredi, jeudi soir. Et ils façonnent vraiment notre manière de penser. On en est tout imprégné, malheureusement. Mais surtout, le drame moderne, c'est que beaucoup de nos contemporains n'en sont même pas conscients. En fait, ils n'ont pas conscience que, y a toutes ces philosophies qui traversent notre manière de penser et qui ont un impact éminemment concret sur notre manière de vivre et sur les choix qu'on pose. Alors, je vais en évoquer quelques-unes. Je vais essayer de voir en tout cas comment ils se manifestent dans l'euthanasie. Et puis, on va essayer aussi de proposer une réfutation ou une manière chrétienne de voir ce problème. Alors, tout d'abord, un des principaux postulats philosophiques, c'est le primat de la volonté. Parce que la pensée moderne, depuis Descartes, considère que le monde matériel et le monde spirituel sont impénétrables l'un à l'autre. Vous voyez, il existe d'un côté le règne de l'esprit, de l'autre côté l'empire de la matière. C'est le dualisme cartésien. Dans la pensée chrétienne, au contraire, l'homme dispose bien d'un corps et d'une âme. Et les deux principes existent bien, hein, principes spirituels et matériels, mais la foi les distingue pour mieux les unir. Hein. L'homme est un seul être, à la fois spirituel et corporel. Mais en introduisant une séparation radicale entre ces deux dimensions, on aboutit fatalement à la revendication de l'autonomie parfaite des facultés spirituelles de l'homme, et donc en fait à une tyrannie de l'empire de l'esprit sur le corps. Saint Jean-Paul II relève dans Evangelium Vitae qu'une des causes de la mentalité de la culture de mort, c'est précisément l'exacerbation du concept de subjectivité. Et dans cette perspective, seul un être disposant d'une certaine autonomie est sujet de droit. Et donc dès lors que cette autonomie est entamée, et donc a fortiori si elle disparaît, alors les conditions de vie sont telles que la vie elle-même ne vaut plus la peine d'être vécue. Parfois, lorsqu'on évoque la fin de vie, ou des fins de vie difficiles, on entend que, une personne dépourvue, même d'ailleurs momentanément, de la capacité de communication verbale explicite, n'est plus dans une situation de dignité suffisante pour continuer à vivre. Avant de proposer une réfutation, je vais aussi voir un second postulat philosophique qui est l'exaltation de la liberté, parce que les deux sont liés. Parce que, de fait, le primat de la volonté, il s'accompagne dans notre société d'une exaltation de la liberté. Ça va en quelque sorte de soi. Vous voyez, si la volonté est la faculté de pouvoir se déterminer et que c'est le sujet libre qui exerce sa volonté, Et si celle-ci est magnifiée, alors la liberté ne peut être qu'exaltée. Cette exaltation se manifeste alors comme une revendication d'autonomie absolue de la personne. L'individualisme exacerbé que connaît notre société moderne n'est donc pas sans influence sur la fin de vie. En faisant du « moi » la référence absolue, la pensée moderne a en fait rendu impossible l'établissement de repères objectifs pour l'action morale et donc, par conséquent, sur les choix bioéthiques. La loi naturelle, en revanche, que la pensée chrétienne a reprise, elle s'énonce traditionnellement en des lois qui ont vocation à accomplir la personne humaine. Et dans cette perspective chrétienne, un acte n'est bon que s'il est conforme à ces lois. Vous voyez, un acte humain n'est bon que s'il contribue à mon bien. Et la volonté du sujet, elle n'intervient dans ce processus que pour s'attacher au bien, ou au contraire pour le rejeter. Mais dans la pensée moderne, le bien n'existe pas de manière absolue. Chaque individu est souverain maître pour déterminer ce qui est bon pour lui. Et donc, la vie n'est plus intangible. Elle ne fait l'objet d'une protection que si le sujet le désire. Cette rhétorique de la liberté, elle est délétère. Je laisse la parole à Philippe Pozzo di Borgo, que vous connaissez peut-être, en tout cas pas sous ce nom, parce que c'est la personne qui a inspiré le film Intouchable. Donc, il s'agit d'un homme tétraplégique et qui a écrit une tribune très belle en 2021 avec le collectif « Soulagé, même pas tué ». Alors, je le cite brièvement, je ne vais pas lire toute la situation. Mais il nous dit « Plus d'un quart de siècle de tétraplégie, marquée, j'ose le dire, par autant de joie que de douleur réelle, m'a vacciné contre le piège du mot « liberté ». En toute liberté, après mon accident, quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et d'immobilité, j'aurais exigé l'euthanasie si on me l'avait proposé. » Après, il explique que c'est le regard de ses proches qui l'a aidé à sortir de cette situation de détresse. Et il finit « En réalité, affirmer qu'au menu de la vie, on pourrait choisir sa mort est une absurdité et une violence. De même qu'il est absurde et violent d'exiger d'un soignant qu'il transgresse l'interdit de tuer. Car c'est cet interdit qui limite sa toute-puissance, nous met sur un pied d'égalité, m'autorise à exister et, si j'en éprouve le besoin, à me plaindre sans craindre d'être poussé vers la sortie. » Vous voyez, en fait, dans cette perspective, la liberté est un piège, en fait. Elle consiste à faire croire qu'on laisse le choix, mais en réalité, le choix n'existe pas. Parce que, au final, le message que renvoie l'euthanasie, c'est vous ne valez pas la peine qu'on se batte pour vous, vous, les personnes qui êtes dépendantes, qui êtes souffrantes. Or, les personnes qui sont en fin de vie, elles ont besoin des autres pour avancer. Et si ce soutien n'est pas absolument intangible, eh bien, leur liberté est en quelque sorte tronquée. Là, donc, j'avance. J'évoque aussi rapidement un autre postulat qui est celui de l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est un courant de pensée qui nous imprègne très fortement, dont le théoricien principal c'est Jeremy Bentham au XIXe siècle. Et la doctrine de l'utilitarisme consiste à placer la valeur suprême de l'homme dans l'utilité personnelle, qui est elle-même comprise comme ce qui procure les plaisirs les plus grands. Alors, l'utilitarisme est évidemment nuisible pour l'homme parce qu'il a en horreur ce qui est susceptible de limiter le plaisir. Mais de fait, la vie humaine, elle est traversée de limites et le plaisir ne lui est jamais infini. Et donc, l'utilitariste, il souffre de cette incapacité à considérer l'homme de manière objective, c'est-à-dire dans ses limites et dans ses faiblesses. Et les conséquences de cette doctrine sur le plan bioéthique sont évidentes. Dès lors que la qualité de vie est amoindrie par la dépendance, la souffrance, diverses maladies, alors l'édifice humain qui est fondé sur la valeur suprême plaisir, qui est ainsi compromise, alors cet édifice s'écroule. L'utilitarisme, il s'accommode très très bien du capitalisme. Et le capitalisme, à son tour, il entretient la culture de mort. Vous voyez, l'aspect économique du problème de l'euthanasie a une importance que ses partisans nient, mais qui est pourtant bien réelle. Les traitements qu'on administre aux personnes qui sont en fin de vie, ils sont souvent onéreux. Et donc, sous cet angle, évidemment, l'euthanasie apparaît comme une mesure particulièrement efficace pour réduire les frais, puisqu'elle permet de mettre fin à des années de traitements coûteux. Il est évidemment scandaleux de vouloir faire du profit sur la mort de certaines personnes. Ça se dispense de démonstration. D'ailleurs, personne ne le soutient explicitement. Mais quoi qu'en disent les partisans de l'euthanasie, il n'y a rien qui permette d'assurer qu'une fois l'euthanasie légalisée, eh bien, l'aspect économique ne soit jamais pris en compte pour décider de mettre fin à une vie. Les garde-fous, l'expérience montre que les garde-fous sautent souvent. Et nous en arrivons à notre dernier postulat philosophique qui est peut-être le plus important dans l'euthanasie, qui est celui de la perte du sens de la souffrance. Parce que l'une des causes les plus immédiates de la mentalité euthanasique, c'est bien la perte du sens de la souffrance. Alors évidemment, la souffrance est toujours un mal, et l'homme n'a pas le droit d'être insensible à la douleur de son prochain. C'est évidemment quelque chose qu'il faut rappeler avant de parler de cela. Mais la souffrance est un mystère qui nous dépasse, c'est un mystère qui est incompréhensible et qui d'ailleurs n'aurait pas de sens si le plan rédempteur de Dieu n'en avait pas fait l'instrument de la rédemption. La souffrance est une réalité qui est inévitable dans la vie humaine, on s'en rend tous compte, même si de fait il y a évidemment des différences dans les degrés de souffrance supportée. Et c'est précisément parce que cette souffrance est incontournable que les partisans de l'euthanasie ont développé une dialectique de l'émotion pour faire émerger un consensus sur la légalisation de l'euthanasie. Et cette dialectique de l'émotion, elle consiste dans un sophisme assez simple. La souffrance ne peut être soulagée que par la mort. Donc, celui qui ne souhaite pas administrer la mort à celui qui souffre désire en réalité qu'il souffre. Sauf que, en fait, ce raisonnement, il se fonde sur un double mensonge. Tout d'abord, le soulagement de la souffrance. La science médicale, moderne en tout cas, s'est beaucoup développée dans le domaine du soulagement de la souffrance. D'ailleurs, il y a une branche même de la médecine qui s'est spécialisée dans ce domaine, ce sont les soins palliatifs. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous cite une brochure du gouvernement qui explique ce que sont les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins associés au traitement de la maladie. Ils ont pour objectif de préserver la qualité de vie, de soulager les douleurs physiques et tous les autres symptômes gênants. Ils prennent également en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne malade et de sa famille. En fait, les soins palliatifs concernent l'ensemble des mesures qui sont destinées à améliorer la qualité de vie d'un patient en fin de vie ou atteint d'une maladie grave. Et l'approche qui est adoptée pour dispenser ces soins, elle est multidisciplinaire. Parce que les souffrances et les joies qui traversent la vie d'un malade, elles peuvent être de toutes sortes. Et donc, les professionnels des soins palliatifs, ils font intervenir toutes sortes de professionnels, de la musique, de l'art, de la gastronomie, de la psychologie. Voilà. L'idée, c'est de soulager toutes les souffrances que peut éprouver un patient par des moyens qui sont évidemment licites. La médecine moderne, elle n'est donc pas sans ressources pour soulager la souffrance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Parce que cette dialectique de l'émotion, elle est fausse. Vous voyez, la médecine peut soulager les souffrances. Et la plupart des souffrances physiques ont une réponse d'ordre médical, même si évidemment cela n'est pas absolu et que parfois la seule manière de soulager une souffrance, c'est la sédation. Le second mensonge sur lequel repose la dialectique de l'émotion, c'est que la mort met fin à toute souffrance. Or, ce second mensonge n'est pas tout à fait exact, parce que la mort, elle est un moment important de la vie humaine. Il suffit de penser au décès que nous avons peut-être vécu dans nos propres familles. Voilà, c'est le moment où les proches se rassemblent et tout le monde veut échanger au sujet de la mort du défunt, savoir quels ont été ses derniers mots, les dernières circonstances, voilà, ce qu'il a pensé et vitalement les souhaits qu'il a émis. Et il y a un ensemble de rites qui entourent la mort parce que la mort met en relief le mystère de la vie. Duc d'Hualderville disait: Donner la mort, c'est voler le reste à vivre, à la fois pour celui qui s'apprête à mourir, mais aussi pour toute la famille en fait. On ne sait pas ce qui peut se passer dans une âme au moment de la mort. Il n'est pas rare de voir dans les hôpitaux, par exemple, des personnes qui attendent, qui sont pourtant en phase terminale, mais qui attendent des jours l'arrivée d'un proche de leur famille pour donner un pardon, pour en recevoir, pour un tas d'autres choses. Voilà. Et des personnes qui défient un peu les pronostics médicaux et qui, une fois que l'objet de leur attente est satisfait, eh bien, s'en vont paisiblement. Et donc, la mort anticipée, Donc l'euthanasie, c'est une privation de moments qui sont importants dans une vie. La demande même de mort, elle cache souvent un manque d'affection ou d'aide. Alors, dans un document qui émane de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelle Le Bon Samaritain, le cardinal Ladaria, qui en était alors le préfet, écrivait: Les supplications de très grands malades demandant parfois la mort ne doivent pas être comprises comme l'expression d'une vraie volonté d'euthanasie. Elles sont en effet presque toujours des demandes angoissées d'aide et d'affection. Au-delà de l'aide médicale, ce dont a besoin le malade, c'est de l'amour, de la chaleur humaine et surnaturelle que peuvent et doivent lui apporter tous ses proches, parents et enfants, médecins et infirmières. On présente en fait souvent, même systématiquement, l'euthanasie comme une expression de compassion. Mais en fait, il s'agit d'une compréhension profondément erronée de ce qu'est la compassion, qui peut jamais consister à donner la mort. Elle doit même, au contraire, conduire à accompagner le malade et à l'accueillir. C'est le sens même du mot compassion, souffrir avec. Et les demandes d'euthanasie, elles disparaissent presque toujours, c'est assez systématique, lorsque l'accompagnement qui est proposé au malade répond à ses désirs et à ses angoisses. Et ça, c'est très frappant de voir que aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages de personnes, j'en ai lu encore un cette semaine, qui nous disent qu'en fait, les motifs de leur euthanasie, ce sont surtout les manques de prise en charge des souffrances qui sont de nature autre que médicale. Et c'est très frappant. De fait, la mort, c'est une perspective qui est angoissante pour de nombreuses personnes, mais le malade qui se sait écouté et accompagné, qui sait qu'il n'est pas seul, en fait, il peut affronter cette épreuve avec de la sérénité. Et ceci nous amène à traiter notre dernière partie sur la fin de vie, sur la perspective chrétienne, la fin de vie plutôt. Dans l'Évangile de la vie, Saint Jean-Paul II explique que la principale cause de la culture de mort et donc de l'euthanasie, c'est l'éclipse du sens de Dieu qui va de pair avec celle du sens de l'homme. On l'a déjà rappelé également. Et ce sont deux aspects qui sont inséparables, puisque sans Dieu, l'homme ne se comprend plus et s'enferme dans sa réalité physique, n'a plus d'horizon transcendant, la vie n'est plus sacrée, elle devient un simple matériau. La dignité de l'homme, elle est fondée, on l'a déjà dit, sur l'image de Dieu qu'il a créée. Si l'homme ne parvient plus à trouver un repère transcendant, dans un repère transcendant la source de sa dignité, alors celle-ci, en fait, elle est exposée à la merci du plus fort. Et il faut donc le rappeler, toute vie humaine est digne. Ça, c'est quelque chose que le monde moderne peut accepter. Je pense que nos contemporains sont d'accord avec ça. La vie humaine est digne, mais il ne peut pas s'agir d'un simple message. Vous voyez, c'est une affirmation qui doit être vécue. Si la vie humaine est digne, parce que fondée sur la ressemblance divine, alors il faut la protéger. Et elle ne peut être ni manipulée, ni retranchée. Il y a deux phrases dans l'Évangile qui peuvent orienter notre engagement et notre conviction en faveur de la vie. Je les cite. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. La fin de vie, c'est une période qui est de fait une période de grande vulnérabilité. Et le chrétien, il est vraiment amené à voir dans celui qui souffre, celui qui est diminué, dépendant, Jésus lui-même. C'est lui, Jésus seul, qui permettra de donner à la souffrance et à la mort une nouvelle signification. Parce que la souffrance en dehors du plan rédempteur de Dieu, elle n'a pas de sens. Elle n'est qu'aberration. Mais ça, on le verra tout à l'heure avec le topo de Frère Stanislas. La perte du sens de la grandeur de l'homme, elle aboutit nécessairement à la dévaluation de certaines vies. Vous voyez, ce qui fait la dignité d'une vie humaine, ce n'est pas le degré de liberté ou d'autonomie avec lequel on la mène. C'est le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme, c'est une créature de Dieu, et c'est donc Dieu qui donne à l'homme sa dignité, dont on a rappelé que, elle n'était pas disponible. Ce n'est donc pas le regard des autres, ni même mon propre regard sur moi-même qui conditionne cette dignité. Elle existe indépendamment de toutes circonstances. L'euthanasie, c'est vraiment le symptôme de la perte du sens de la grandeur de l'homme. Et donc la question qui doit nous animer, c'est la suivante. Quel message est-ce que la légalisation de l'euthanasie renvoie? Certaines vies ne valent plus la peine d'être vécues. En fait, l'euthanasie, c'est l'abdication de notre humanité, c'est l'échec d'essayer de comprendre celui qui souffre. Chez nos contemporains, beaucoup de personnes pensent que, sans mauvaise foi d'ailleurs, qu'ils ont beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent lorsqu'ils veulent abréger leur temps de souffrance en leur prodiguant la mort. Mais en fait, ils trahissent de cette manière leur conception qu'ils ont de la dignité de l'homme. Cette conception qu'ils ont de l'homme et de sa dignité, elle est finalement très horizontale et limitée. Vous voyez, elle est plus transcendantale car elle se courbe, elle cède devant d'autres valeurs qui sont jugées plus importantes, la liberté, l'autonomie. Voilà. L'euthanasie, en fait, elle suppose in fine qu'il y a des vies qui sont diminuées et qu'il serait donc compréhensible de les éliminer. On l'a vu hier avec Louis Buffard, c'était un témoignage qui était très, très émouvant. Mais il faut le rappeler, toute vie humaine est digne. Alors, on va conclure. Parce que, comme souvent dans les sujets bioéthiques, ce sont les personnes les plus fragiles ou les plus pauvres qui sont les premières victimes. Tugdual Derville, disait, dans le domaine de la bioéthique, il n'y a pas de porte entrouverte. Et il n'y a que des portes ouvertes ou fermées. À partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, tout sort. Et les dérives, elles sont contenues en quelque sorte dans la transgression de l'interdit de tuer. Qui pourra en fait empêcher que, par exemple, un héritier ne hâte pas la mort de son parent pour en recueillir l'héritage? Qui pourra assurer que l'euthanasie ne sera pas ouverte à des personnes qui sont simplement lasses de vivre? Qui pourra rassurer les personnes âgées devant faire un séjour à l'hôpital? Vous voyez, toutes ces questions, elles sont vraiment très importantes et en fait, le débat actuel de l'euthanasie les occulte complètement. Et la seule manière d'y répondre, finalement, c'est de maintenir l'interdit de tuer. Et donc, je conclus avec les mots du cardinal Seppert, qui était un ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et qui s'exprimait ainsi au sujet de l'euthanasie. Les normes contenues dans la présente déclaration sont inspirées d'un profond désir de servir l'homme selon le dessein du Créateur. Si la vie est un don de Dieu, la mort est inéluctable. Il faut donc, sans en prévenir l'heure, savoir l'accepter en toute responsabilité et dignité. Il est vrai qu'elle marque la fin de notre existence terrestre, mais en même temps, elle fait éclore une vie immortelle. Aussi, tous les hommes doivent-ils se préparer à cet événement à la lumière des valeurs humaines et chrétiennes, plus encore à la lumière de la foi.